Bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai quand même été assez touché par ce qui a été dit ce matin. Et je dois vous dire que ce que j'avais prévu de partager avec vous est complètement la continuité de ce que nous avons dit ce matin. La parole nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ces paroles sont celles de Pierre, lorsqu'il exhorte les chrétiens de l'Église, il exhorte les anciens, il exhorte les jeunes, il exhorte les dirigeants de l'Église. On trouve des paroles similaires déjà dans les psaumes, au psaume 55, où il nous est dit « Rejette ta charge sur l'Éternel et il te soulagera. » Déchargez-vous, rejette ta charge sur ton Dieu et il prendra soin de toi, il te soulagera. Combien nous avons besoin d'entendre ces paroles. Combien nous avons besoin de les entendre, mais combien il est difficile de les vivre. Et encore plus lorsqu'on traverse des épreuves. L'épreuve, c'est bien souvent la souffrance. C'est une lutte. C'est un combat que l'on doit mener souvent seul. Alors on résiste. On résiste, mais le fardeau devient vite trop lourd à porter. Et on ne comprend pas pourquoi. Comment serait-il autrement, car nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés. Et cette phrase, vous l'avez peut-être déjà entendue, ou vous l'avez peut-être déjà vous-même prononcée. Jusqu'à quand ? Alors je voudrais ce matin partager avec vous un passage de la parole de Dieu qui est un appel au secours. Un appel au secours en Dieu. Un appel au secours lorsque nous traversons des temps d'incompréhension. Des temps de souffrance, d'incertitude. Cet appel au secours, il se trouve dans le livre des psaumes, et nous allons lire le psaume 13. Le psaume 13 fait 6 versets. Nous avons commencé par les psaumes. Nous avons lu des psaumes et nous continuons avec les psaumes. Psaume 13, nous lirons les 6 versets. Psaume est dit de David, c'est un psaume donné pour la louange, mais c'est aussi une prière. C'est aussi une prière personnelle et collective. Au chef des chantres, psaume de David. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu ! Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance à ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Vous savez, le livre des psaumes désigne un ensemble de textes pour la louange et l'adoration à Dieu. Et on distingue des passages différents selon leurs auteurs, que ce soit David, Asaph. Et le livre des psaumes renferme donc des textes très divers, comme des louanges à Dieu, des prières de reconnaissance, des prières d'espérance, d'espérance d'une libération, mais aussi des cris, des cris du peuple, des cris personnels, des prières de désespoir envers Dieu. Le livre des psaumes se divise en 5 sections. Et dans ces 5 sections, notre passage se trouve dans la première. Et les premiers psaumes en appellent au secours, à l'aide de Dieu, aux promesses de Dieu, à la justice et à la confiance en Dieu. D'ailleurs, souvent, ces psaumes sont écrits pour une occasion particulière. Soit à l'occasion de la louange à Dieu, soit à l'occasion d'un événement lorsque, par exemple, David fuyait, lorsqu'il est attaqué de toutes parts, ou lorsqu'encore il est délivré de ses ennemis. Donc les psaumes ont, dans leur diversité, cette richesse d'avoir des textes adaptés aux circonstances de la vie et qui répondent donc de manière très puissante aux situations que le peuple vivait et que nous pouvons vivre aussi. Et au travers de ces situations, comment Dieu agit quand nous nous adressons à lui. Et notre passage est dit de David, et ce passage est donné à un moment particulier, puisque ce psaume est un psaume de désespoir. C'est un psaume sous forme d'une prière adressée à Dieu. Notre passage est donc un texte dit de supplication et d'espérance dans l'action de Dieu. Jusqu'à quand, Éternel ? Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? David, ici, s'adresse à Dieu dans ce psaume. Ce psaume nous est donné comme une prière. C'est peut-être une prière personnelle qu'il a faite. C'est une prière qui a été chantée collectivement. Et c'est une prière qu'on peut aussi s'approprier personnellement. Mais cette prière est avant tout un désespoir. Il traduit ce psaume une souffrance profonde. Et la première chose que témoigne David ici à son Dieu, c'est ce qu'on pourrait dire comme le long mutisme de Dieu. Un mutisme qui lui semble interminable. Jusqu'à quand ? Par 4 fois, David crie à Dieu son incompréhension pour ce qu'il vit. Il est dans un état de détresse qui afflige tout son être et qui ne cesse de le tourmenter. Il vit une situation interminable. Il ne voit pas le bout du tunnel. Il est dans une telle situation qu'il ne voit pas la main de Dieu. Il ne voit pas Dieu agir dans sa vie. Il ne comprend pas pourquoi il doit vivre cette situation. Et il se plaint de l'absence de Dieu au travers de cette souffrance. Et c'est vrai que dans notre vie, nous pouvons être amenés à ne pas comprendre ce qui nous arrive et pourquoi Dieu n'agit pas. Et c'est pour ça que je vous disais ce matin, nous pouvons dire nous aussi jusqu'à quand ou encore pourquoi. Nous pouvons vivre aussi une vie de souffrance, d'incompréhension, de désespoir. C'est la réalité. Et nous aurons tous probablement à traverser des épreuves qui nous feront dire au moins un jour, jusqu'à quand ? C'est une réalité et la parole de Dieu nous le dit. Ce n'est qu'auprès de Dieu, lorsque nous serons dans sa gloire, que nous aurons une délivrance définitive de la souffrance que nous vivons sous toutes ses formes sur la terre que nous habitons. Il nous est dit en Apocalypse 21, au verset 4, « À ce moment-là, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni labeur, parce que les premières choses auront disparu. » Mais avant ce temps, et pour le temps qui nous reste à vivre sur la terre, nous aurons à traverser diverses épreuves. Et David, certainement au travers de ce psaume, nous témoigne d'une épreuve qu'il a traversée. Et il s'adresse à Dieu. Il s'adresse à Dieu sans faux semblant, sans fraude dans son cœur. Il témoigne dans sa prière de ce qui le ronge au plus profond de son être. Il ne masque rien à Dieu. Et deux termes nous montrent ici l'étendue de l'état dans lequel il se trouve. Il dit tout d'abord « tout le jour », ou comme il est dit dans d'autres traductions, « à longueur de journée ». Ce n'est pas de temps en temps que David souffre, c'est tout le jour. Et tous les jours qui se succèdent aussi cette souffrance qui lui fait dire qu'elle est interminable. Cette souffrance, cette incompréhension se maintient, elle reste. Et certainement, lorsqu'elle reste, elle s'amplifie. David n'a pas et ne connaît pas de répit. Il souffre en permanence et cette permanence le consume. Une deuxième chose témoigne ici du poids de sa souffrance. David dit « Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? S'élèvera-t-il au-dessus de moi ?» Ou comme il est dit encore dans d'autres traductions, « Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus ?» David est découragé. Alors nous ne savons pas quel est cet ennemi. Mais je crois que c'est pas le point central, de savoir quel est l'ennemi. Ce qui est important ici, c'est l'intensité de sa souffrance. Ce qui le décourage est supérieur, est au-dessus de lui, est plus fort que lui, c'est-à-dire au-delà de ses forces. Et cette souffrance est permanente. David ne peut donc pas résister par lui-même. Il est dépassé par ce qu'il vit et il a le sentiment que Dieu n'agit pas. Et on est tous conscients que nous pouvons traverser et vivre des épreuves comme la maladie, la mort, la souffrance, mais aussi l'incompréhension pour des situations. Et en préparant ce message, je me disais, mais quel exemple on peut prendre ? Il y a tellement d'exemples de souffrance, tellement d'exemples de mort. Il suffit d'allumer la télévision. Et le premier exemple de souffrance, nous l'avons eu cette semaine. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Qui n'a pas entendu ce car scolaire qui s'est encastré dans le mur d'un tunnel avec 22 enfants qui sont morts, 6 adultes qui ont aussi perdu la vie, sans compter les 28 blessés graves. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots quand on considère ça, mais il n'y a pas de mots pour les familles qui ont subi ça. La souffrance est permanente. Et là, la souffrance, on peut dire, va au-delà des forces. Elle va au-delà des limites. C'est encore en regardant un reportage à la télévision sur cette famille de 4 enfants qui a perdu son fils de 7 ans. Il y a quelques années, ils partent en vacances au bord de la mer, en Australie, au bord de l'océan donc, pensant passer de bonnes vacances. Le petit garçon de 7 ans se retrouve dans l'eau, joyeux, et il ne se noie pas, non, parce que là la mer est calme, mais il est piqué par une méduse. Et je ne sais pas si vous savez, mais en Australie, les méduses sont les méduses les plus dangereuses qu'il y ait sur Terre. Elles sont mortelles. Et une seule de ces tentacules peut tuer 60 personnes. Et cet enfant avait toutes les tentacules autour de lui. Il est mort avant d'arriver à l'hôpital. La souffrance est permanente pour ses parents. Et elle va au-delà des forces. Elle va au-delà de la compréhension. Alors on pourrait trouver d'autres sujets. Mais vous avez compris qu'on peut vivre des situations dans nos vies qui dépassent l'entendement. Des épreuves qui peuvent avoir raison de nous. Ces épreuves sont écrasantes et elles donnent le sentiment réel qu'on ne peut pas résister, que personne ne peut comprendre notre souffrance et que finalement personne ne peut nous aider. Où que l'on regarde, il n'y a pas de solution. Il n'y a plus de solution. Et on a beau le savoir, quand cela arrive, personne n'est préparé à vivre cela. Pourtant, ça arrive. On peut vite être submergé. Et ça arrive sans prévenir. Un jour, on maîtrise sa vie, on pense maîtriser sa vie, et le lendemain, on ne maîtrise plus rien. Alors, ce qui frappe ici, c'est que David crie à Dieu. Il prie avec ferveur. Il ne cache rien à son Dieu. David dévoile la réalité de sa souffrance sans retenue. Et c'est pour cela qu'au premier abord, lorsqu'on lit ce passage, on peut être choqué par la violence des mots. La violence des mots de David envers son Dieu. Mais si on considère ce qu'il vit et ce qu'il dit, nous voyons que finalement David se dépouille totalement devant Dieu. Il ne cache rien à son Dieu. Il s'abandonne complètement à lui. Rien ne peut et ne doit être caché à Dieu, même la plus grande incompréhension pour nos vies. Nous n'avons pas un Dieu qui ne puisse pas entendre nos souffrances et nos incompréhensions, bien au contraire. C'est donc avec toute cette charge qui le submerge que David s'adresse à son Dieu. Et ces paroles nous montrent finalement que David cède dans sa vie. Dans son cœur, à ce moment-là, il n'a pas de pensée qui le retienne. Tout est balancé. Tout est mis devant Dieu. Tout le cri de sa souffrance est mis devant Dieu. Et cet abandon sans retenue va amener David, je crois, à s'attendre entièrement au secours de Dieu. Et je pense personnellement que c'est lorsque l'on cède vraiment que l'on est prêt à s'attendre au secours de Dieu. Et c'est valable pour les situations de détresse profonde, comme pour les situations que nous vivons tous les jours, qui sont peut-être moins graves, moins profondes. C'est quand on cède vraiment que l'on est prêt à s'attendre au secours de Dieu. Et c'est à ce moment-là que David va tomber dans les bras de son Dieu. À celui-là même à qui il reproche son mutisme, David, à partir du verset 4, l'appel au secours. Il dit « Regarde, réponds-moi éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Contrairement au premier verset, David appelle au secours son Dieu. « Regarde, réponds-moi, donne à mes yeux la clarté. » Il dit ces paroles fortes, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Ou comme nous voyons dans la version du Semeur, sinon je m'endors dans la mort. Et je crois qu'à un moment donné de notre vie, nous pouvons avoir ce même sentiment qui nous fait dire finalement qu'il n'y a plus d'espérance. David ici remet simplement toute chose au regard de Dieu. Il dit, mon Dieu, c'est toi qui vois, c'est toi qui réponds, c'est toi qui donnes, alors considère ma souffrance. Il sait que ce n'est pas par ses propres moyens qu'il trouvera la solution. Mais dans sa prière, à ce moment-là, il sait qu'il trouvera la solution pour sa vie auprès de Dieu. Nous lisons en Hébreux 4 au verset 16, cette image, et c'est vrai que souvent je reprends ce verset comme exemple, mais je crois qu'il est nécessité pour notre vie. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous du trône de grâce. Et je crois que David, dans sa prière, à ce moment-là, s'est approché du trône de grâce. Alors ce psaume est court. Mais dans son contenu, il nous révèle non seulement comment la souffrance peut nous submerger, comment cette souffrance peut entraîner une incompréhension dans notre vie de la situation qu'on vit, mais ce psaume nous montre aussi la puissance agissante de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Et à partir du verset 5 et ensuite au verset 6, tout change dans la prière de David. Nous lisons « Moi j'ai confiance à ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. » On pourrait dire ce psaume, il est complètement fou. On commence par une détresse profonde et voilà qu'au sixième verset, David chante qu'il a confiance dans la bonté de Dieu, qu'il a de l'allégresse dans le cœur. Il est complètement fou. Nous voyons dans ce psaume qu'il est possible de passer du découragement le plus total à l'espérance la plus solide. Dieu met dans le cœur de David à ce moment-là la confiance la plus solide pour lui, en lui rappelant l'espérance du salut qu'il lui a donné. Dieu restaure cette confiance au travers de bénédictions pour David. Aux quatre jusqu'à quand du début de ce psaume, du début de cette prière, aux quatre jusqu'à quand d'incompréhension se succèdent quatre paroles de bénédiction à la fin de ce psaume. J'ai confiance à ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, il m'a fait du bien. David a laissé ses soucis là, toutes ses incertitudes. Il les a laissées là, devant le trône de grâce. Il les a laissées là. Il n'est pas capable de les porter. Et son âme est restaurée par la grâce infinie de Dieu, par son Esprit Saint qui agit. Nous lisons dans le psaume 23 ces paroles. L'Éternel, mon Dieu, il restaure mon âme à cause de son nom. Il restaure mon âme. Dieu sait restaurer notre âme. Dieu sait restaurer nos vies. Dieu sait restaurer notre confiance. Il sait restaurer notre joie. Il sait restaurer notre espérance. Notre Dieu sait nous faire du bien. Même si ce que nous traversons paraît une folie. Par son esprit, Dieu donne l'assurance du salut. Il rappelle cette certitude dans le cœur de David. Et David sait que Dieu, en cela, a tout accompli. Et que le plus grand trésor qu'il a est celui-ci. Au sein de cette épreuve, il sent son fardeau enlevé, son espérance renouvelée. Il constate alors que ses craintes et ses plaintes ne sont plus nécessaires pour avoir ensuite cette certitude reconnaissante que le Seigneur lui a accordé sa paix. Au début de ce psaume, David ne comprend pas le long mutisme de Dieu. Et en tout cas, ce psaume nous est donné comme ça. Jusqu'à quand ? Et là, pendant ce psaume qui est semblable à une prière, pendant cette prière, au cœur même de cette prière, nous avons une réponse immédiate de l'action de Dieu. Et je crois que c'est l'importance de la prière. On peut commencer notre prière avec la plus grande détresse et finir avec une paix profonde. C'est la réalité de la prière. Et nous avons cette certitude dans la parole de Dieu que l'Esprit de Dieu agit dans nos prières. Soyez-en certains. En Romains 8, au verset 26, il nous est dit « De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. » Ça nous a été rappelé ce matin. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Notre Dieu agit dans la prière par son Esprit. C'est une promesse. Alors, entre-temps, il ne nous est pas dit dans ce psaume si la situation de David a changé. Et je crois qu'entre-temps, la situation de David dans sa vie n'a pas fondamentalement changé. Mais ce qui a changé, c'est sa perception des choses. Demain, son ennemi sera certainement encore là. Il ne nous est pas dit que Dieu a fait disparaître cette épreuve. Mais l'action du Saint-Esprit dans son cœur lui a apporté avant tout ce dont il avait besoin. Et ce dont il avait besoin en premier, c'était de la paix de Dieu. Cette paix qui lui fait dire « Il m'a fait du bien ». David, à la fin de sa prière, ne dit pas « Mon Dieu a enlevé de moi mon épreuve ». Il dit « Mon Dieu m'a fait du bien ». Et je crois que nous avons besoin aussi dans nos vies, quel que soit notre degré de souffrance, quel que soit notre degré d'incompréhension, nous avons besoin de recevoir la certitude à un moment donné de nos vies que Dieu agit. Et qu'au bout de toute chose, nous avons besoin des promesses de Dieu pour nos vies, des promesses de paix. Tout peut s'effriter, tout peut se dérober et tout se dérobera sous nos pieds. Mais j'ai besoin d'une chose, j'ai besoin de connaître la paix de Dieu dans ma vie. J'ai besoin de connaître cette paix qui me fait dire que Dieu ne m'a pas abandonné. Ou si j'ai l'impression qu'il m'a abandonné, qu'il m'a restauré. Non pas que je me suis restauré moi-même, mais qui dans mon affliction, dans ma faiblesse, il m'a restauré lui. Ce dont nous avons le plus besoin dans notre vie, c'est de la paix de Dieu en Jésus-Christ. Alors vous me direz, c'est facile à dire. Non, c'est pas facile à dire. C'est pas facile à dire parce que chaque fois qu'on doit aborder ce thème, c'est déjà un combat personnel de pouvoir l'aborder. Qui peut parler de souffrance s'il ne l'a pas vécu ? Qui peut parler d'incompréhension s'il n'a pas le sentiment dans sa vie d'avoir eu un jour l'impression que Dieu l'avait abandonné? Et bien moi, je dois vous dire quand même que, à la mesure de ma petite vie, j'ai quand même eu l'impression un jour que Dieu nous avait abandonnés. Le 21 février 1999 restera gravé pour moi et ma famille comme une épreuve difficile. Alors on a des épreuves dans la vie qui sont difficiles. On a tous des parents qui sont morts, des amis, des gens qu'on aimait. Le 21 février 1999, nous avons, au sein de notre église, où j'étais avant, le fils du pasteur est décédé ce jour-là. Il est décédé ce jour-là, on avait passé toute notre enfance avec lui. Et il est parti le 21 février, décidant de mettre un terme à sa vie. Malgré la maladie, malgré la souffrance, malgré la schizophrénie, c'est l'incompréhension la plus totale. C'est la souffrance qui tombe d'un coup comme une chape de plomb. Et je peux vous dire que toutes les certitudes que vous avez sont ébranlées ce jour-là. Alors, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Mais ce que je peux vous dire, c'est que on peut connaître des degrés de souffrance qu'il n'est pas possible d'exprimer. Une souffrance qui vous submerge à un tel point que vous n'êtes même pas capable de la supporter, que vous n'êtes pas capable de la maîtriser. C'est comme un fleuve qui coule et qui ne se termine pas. Un torrent qui vous emporte et vous ne pouvez pas y résister. Mais je peux vous dire encore une fois que si Dieu n'avait pas été là, nous n'aurions pas pu, sa famille n'aurait pas pu surmonter cette épreuve. Il est nécessaire de rappeler que nous avons dans la parole de Dieu la souffrance des hommes qui est révélée. Et si nous avons la souffrance des hommes qui est révélée, nous avons aussi le secours de Dieu qui nous est révélé. Et cela, on ne peut pas le masquer. Nous avons cette certitude du secours de Dieu, même quand tout semble inexplicable. Dieu veut qu'on s'approche de lui. Notre Dieu souhaite porter nos fardeaux. Il souhaite restaurer notre âme. Il sait nous faire du bien là où nous en avons le plus besoin. Et il sait remplir nos vies de son espérance. Alors pour terminer, je voudrais vous rappeler ces paroles de Paul, de l'apôtre Paul, qui sont écrites pour ses frères et sœurs de l'église de Philippe, qui sont des paroles d'exhortation et qui sont des paroles qui découlent tout droit de ce psaume que nous avons lu ce matin, et qui est aussi une application pour nos vies. Philippiens 4, versets 6 à 8. Et je vous invite, vous connaissez certainement ces versets, mais je vous invite à les graver dans votre cœur. Parce que, à première vue, ces paroles peuvent nous interpeller, mais si on les considère vraiment, nous pouvons voir que rien ne peut être éloigné de Dieu. Tout peut être soumis à sa grâce. En Philippiens 4, au verset 6 à 8, il nous est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il n'y a rien au-dessus de la paix de Dieu. Elle surpasse toute intelligence. Donc tout peut être soumis à Dieu. Tout peut être soumis au regard de Dieu. Même les choses les plus inexplicables.